Vendredi 4 septembre 2020, il vient d'être 18h, l'heure du journal en français du studio Kalangou. Présentation Rafika Taher. À présent, les titres du journal. 71 personnes auraient été victimes d'exécutions sommaires de la zone d'Inates, région de Tillabéri. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par la Commission nationale des droits humains du Niger en mars et avril 2020. Les détails dans un instant. La police judiciaire a présenté hier 4 bandes de malfrats, dont plusieurs mineurs. Les organisations défenseurs des droits de l'enfant au Niger ne cachent pas leur indignation. Dans la partie magazine ce soir, un altermondialiste analyse les défis à relever du Niger qui, tout le mois de septembre, va assurer la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Commission nationale des droits humains a présenté officiellement ce matin à Niamey le rapport d'une enquête menée du 27 mars au 2 avril 2020 relativement aux allégations sur la disparition de 102 personnes dans la zone d'Inates, région de Tillabéri. La mission a fait cas de l'exécution sommaire de 71 personnes dont les corps ont été recouverts dans 6 fosses communes à Inates. Un extrait de ce rapport avec Abdoulaye Seydou, membre de la mission au micro de Tarnan Foudey Ahmed.
À la lumière des témoignages, des éléments de preuve matériels découverts sur le terrain, des rapports d'expertise médico-légale et des rapports dressés par les officiers de police judiciaire, la mission a conclu qu'il y a eu des exactions et des exécutions sommaires d'au moins 71 personnes civiles non armées. Que la mort de ces personnes n'est pas liée à une quelconque frappe aérienne. Qu'il n'y a aucun doute que les auteurs de ces exactions sont des éléments des forces de défense et de sécurité. Et qu'il n'y a aucun indice qui permet de conclure ou d'établir une quelconque responsabilité de l'armée en tant qu'institution. Il appartiendra au juge en chef du dossier de situer la responsabilité individuelle et collective des uns et des autres. Il ne s'agit nullement pour la Commission nationale des droits humains de friser et encore moins de porter atteinte au moral des troupes, mais plutôt de continuer davantage à leur ancrage éthique et surtout au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme en tout temps et en tout lieu.
4 bandes de malfaiteurs ont été démantelées par la direction de la police judiciaire après investigation et présentées à la presse hier. Selon la police, 33 personnes ont été interpellées, dont 23 mineurs âgés de 8 à 17 ans, recrutés dans la région de Maradi spécialement pour commettre des vols dans la capitale. Les organisations œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'enfant au Niger ne cachent pas leur indignation face à cet état de fait et situe les responsabilités. Sidi Koumoussa, coordonnateur de l'ONG EPAD Niger, joint au téléphone par Assoumane Achina.
Ces mineurs, c'est d'autres personnes qui les ont poussés à commettre cette forfaiture-là. Je suis vraiment indigné, mais également très très surpris de constater que la méchanceté aujourd'hui des adultes les pousse à un tel comportement. Je me suis beaucoup posé la question, où sont les parents de ces mineurs? Je crois qu'il y a quand même à ce niveau-là une fuite de responsabilité parentale et que cela, pour nous, ne devrait pas y être. Mais c'est également les services compétents de l'État. Parce que ces enfants-là, en principe, auraient dû être quand même dans le système éducatif. Notre appel, c'est vraiment à l'endroit des parents pour qu'ils puissent respecter le devoir qui leur incombe, celui de protéger les enfants en toutes circonstances, mais également interpeller la responsabilité de l'État dans les allocations conséquentes du budget dans les secteurs sociaux de base.
Une coalition des syndicats du secteur de l'éducation du Niger dénonce et condamne la rétrocession de l'école primaire Terminus 2 de Niamey à un promoteur privé par le ministère du Domaine et de l'Urbanisme. C'était ce matin à travers une déclaration rendue publique de l'enceinte de la dite école. Un extrait de la déclaration lue par Chérif Issoufou, membre de la coalition, propos recueillis par nos collègues de la télévision Labari.
La rétrocession des terrains alloués à l'éducation au profit des promoteurs privés à but lucratif a commencé pour continuer à dévorer ceux qui, jadis, étaient considérés comme étant sanctuarisés. Le cas de l'école Aissata Kondo des Ender et celui de l'école Terminus de Niamey constituent un parjure pour le système éducatif. Nous sommes étonnés de constater au moment où des lycées et collèges sont bondés avec des classes à effectifs pléthoriques, des besoins en infrastructure existent encore au ministère des Enseignements Techniques et Professionnels, au ministère de la Jeunesse et du Sport, que cette école devenue presque un symbole national soit rétrocédée à un promoteur privé. C'est pourquoi nous exigeons l'arrêt immédiat de la démolition des bâtiments de l'école Terminus 2 et sa reconstruction. Nous en avons encore besoin.
Le ministre des Domaines de l'Urbanisme et du Logement, Wazir Mamman, lors d'un point de presse animé hier, a assuré que le terrain de l'ex-terminus n'a jamais fait l'objet de ventes privées. Il reste et demeure le domaine de l'État. Mieux, il générera des revenus annuels en vertu du contrat de bail emphytéotique signé avec Suisse UMEF, a précisé le ministre des Domaines. Au Niger, la saison des pluies est propice au développement de plusieurs maladies animales comme la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien, la pasteurolose, etc. Selon le chef service santé animale à la direction de l'élevage de Dosso, la vaccination du bétail avant l'arrivée des premières pluies pourrait prévenir la survenue de certaines infections chez l'animal qui peut conduire à la mort de la bête. C'est ce qu'explique Dr Awal Mahama Moussa de la direction de l'élevage de Dosso au micro de Nana Hadiza Hassan.
Le charbon bactéridien, c'est une infection causée par une bactérie qui affecte la plupart des mammifères domestiques et sauvages. Ça se caractérise donc par une septicémie hémorragique qui aboutit à la mort de l'animal en un laps de temps. C'est une maladie généralement qui est foudroyante, qui ne laisse même pas le temps de manifester les signes. C'est surtout des maladies qu'on rencontre en une saison pluvieuse, puisque ça se sporulise. La spore peut se cacher longtemps dans le sol et ça profite pendant la saison pluvieuse pour se raccrocher aux herbes. Et une fois les animaux en pâturage, ils peuvent brouter cette herbe et pour manifester cette maladie. Il y a le charbon symptomatique, la pasteurolose aussi. Il y a aussi la dermatose nodulaire cutanée des bovins. Ce sont ces maladies généralement que nous rencontrons. Les éleveurs, puisqu'ils connaissent déjà les maladies qui apparaissent en cette saison pluvieuse. Donc, ils n'ont qu'à aussi songer à vacciner leurs animaux avant même cette période-là pour éviter toute contamination.
À l'occasion de la 18e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, une foire exposition sur la médecine traditionnelle se tient à Niamey du 2 au 11 septembre 2020 au stade Saint-Nikounché. Plusieurs tradis praticiens nigériens prennent part à cette exposition, comme Abdoulaye Djibo, chasseur et guérisseur traditionnel natif de Dakoro, région de Maradi. Il utilise des plantes, des thérapies spirituelles pour soigner les malades, a-t-il expliqué à notre reporter Adam Dawaki.
Depuis la nuit des temps, la pharmacopée traditionnelle, vous avez connaissance que ce type de pharmacopée est une spécialité des chasseurs, des coiffeurs, des guérisseurs de fractures et autres personnes détentrices des pouvoirs hérités auprès de leurs ancêtres. Nous l'avons hérité de nos grands-parents. Et nous avons des médicaments que l'on peut tester. Par exemple, celui qui souffre de la drépanocytose, on invoque le mot bismillah seulement. On ne met rien. Il suffit d'imbiber le doigt avec la salive. On touche le produit, c'est une composition d'écorce d'arbre. On le frotte sur la surface qui fait mal. Il y a celui que l'on prépare avec la bouillie chaude, on l'appelle bijoujo. Il traverse les nerfs. Si c'est les massis, chez un enfant, on met de l'ail et on cuisine avec de la graisse d'un animal quelconque. On peut aussi faire boire l'enfant la solution en petite quantité et on lui applique ça sur la partie qui fait mal.
Depuis la fermeture des frontières avec le Mali, la commercialisation du poisson a pris un coup au Niger. Le Mali est le principal fournisseur de poissons de fleuve, explique El Hadj Abdrahman, vendeur en gros de poissons à Niamey. Selon lui, le ravitaillement se faisait chaque jour, mais actuellement, le camion rentre à peine une fois par semaine et cette quantité ne suffit pas à ravitailler tout le monde. Écoutons ses explications au micro du studio Kalongo.
L'approvisionnement du poisson devient très difficile. Depuis 1994, nous n'avons pas connu une telle situation. Il a fallu cette fois, et cela suite à la fermeture des frontières. Le peu qui arrive avec les pirogues qui passent par Ayerou, puis transportées par les véhicules appelés 19, on peut faire 3 jours avant que la cargaison arrive. Cela fait 3 semaines que nous n'avons plus reçu d'approvisionnement en poisson. Avant-hier, nous avons appris que la voie est un peu ouverte. Peut-être que le poisson qu'on peut rentrer petit à petit. Vraiment, c'est partout. Hein. Tout celui qui vend du poisson en souffre. Si tu vois quelqu'un vendre du poisson, eh bien, c'est du côté de Niamey, Kota, Djémé, Gombe, Essaï. Le poisson séché vient du Mali. C'est la fermeture de la frontière qui a causé cette pénurie. Avant, chaque jour, il y a l'approvisionnement du poisson. Maintenant, il faut attendre 4, 5 jours, voire même une semaine.
Du lundi 31 août au 3 septembre 2020, un nouveau cas positif au nouveau coronavirus a été enregistré au Niger sur 821 tests réalisés selon les communiqués du ministère de la Santé publique. Actuellement, 1177 personnes sont déclarées positives au COVID-19 sur 17 181 testés, y compris les voyageurs. Parmi elles, on compte 69 décès, 17 en cours de traitement et 1091 sorties guéries, précise la même source.
Hey Issa, cette histoire de COVID-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose, pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Dans notre magazine hier, nous évoquions le rôle du Niger à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour ce mois de septembre. Une situation diversement appréciée par les Nigériens qui pensent qu'à travers cette position, le Niger peut empêcher des abus unilatéralisme de certaines grandes puissances. Pour l'altermondialiste Maman Sani Adamou, les gens attendent trop du Niger parce que le Niger est encore sensible aux pressions des grandes puissances. Maman Sani Adamou au micro de Mokhtar Hamadou.
Le Niger est un membre non permanent du Conseil de sécurité. Les autres membres, les grandes puissances, ont un droit de veto. Alors qu'est-ce que ça veut dire être président du Conseil de sécurité? C'est de déterminer l'ordre du jour et de conduire les débats, de faire preuve de diplomatie, de rapprocher les positions, etc. etc. Donc le mois d'août qui s'est achevé, c'est la France qui a géré le Conseil de sécurité. À partir du 1er septembre, le Niger joue le même rôle. Mais entre la France et le Niger, il y a une nuance parce que la France est membre du Conseil de sécurité, le Niger ne l'est pas. La France est une puissance, le Niger est fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Donc, même si diplomatiquement tous les pays amis du Niger, ou en tout cas qui ont des relations avec ce pays, attendent de voir leur dossier priorisé, il n'en demeure pas moins que le Niger est sensible aux pressions des grandes puissances. Donc, il faut faire extrêmement attention. Le Niger ne va pas là-bas en tant que pays libre qui dispose de la possibilité de faire ou de défaire. Il ne faut pas se nourrir d'illusions. Venant après la France, il est probable que l'agenda que le Niger va obtenir va être en grande partie déterminé par ce que la France a fait, puisque, comme vous le savez, le Niger fait partie des précarés, des États francophones, et donc, dans une large mesure, la politique extérieure de nos pays est déterminée par la France.
Maman Sani Adamou, il y a certains pays qui espèrent l'appui du Niger pour lutter contre les abus de l'unilatéralisme des États-Unis. Est-ce que ces pays-là ne vont pas déchanter, est-ce qu'ils ne vont pas désespérer?
Si on attend du Niger d'inscrire un certain nombre de dossiers et de fonds à l'ordre du jour, ça c'est faisable. Mais si on attend du Niger d'être aussi actif que ça pour faire promouvoir un certain nombre de préoccupations. Je pense que les gens attendent trop du Niger. Je vois mal le Niger défier les États-Unis. C'est pratiquement impensable. Tout comme il est impensable de voir le Niger aller à contre-courant de la position de la France. Donc ceux qui pensent que, malgré les discours contre l'unilatéralisme des États-Unis, que le Niger va se faire le champion de ce combat, dans l'espace d'un mois, je pense que c'est aller trop vite en besogne.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.